Prenez pour geste le fleuve des perles, deuxième partie, le nénuphar blanc. Chapitre 1, le prix d'un pendu. Il y avait une huitaine de jours à peu près que s'étaient passés les événements qui forment la première partie de ce récit, lorsque deux hommes, qui nous intéressent fort, traversèrent au milieu de la nuit le pont de pierre qui relie l'île d'Ornan à la terre ferme. Arrivés aux premières maisons de ce hideux faubourg de Canton, que nous avons déjà eu l'occasion de décrire, ils prirent à droite pour suivre le rivage pendant une centaine de pas et s'arrêtèrent en face d'une hutte sordide dont les flots devaient baigner la muraille quand les eaux du fleuve étaient hautes. Ces deux hommes portaient le costume du pays, et quoique l'obscurité les forçât de marcher presque à tâtons, ils avaient rabattu sur leur visage les larges bords de leur chapeau de feutre. Ils n'avaient cependant pas à craindre d'être reconnus par qui que ce fût, car le quai était désert. Au loin, à travers les nombreux navires mouillés au large, on apercevait encore sur la rive opposée les illuminations des bateaux de fleurs, mais il ne s'échappait ni bruit ni lumière des tristes habitations de cette partie de la ville. « C'est bien ici, » dit l'un de nos personnages, en désignant la pauvre maison devant laquelle ils étaient parvenus. « Oh, il était temps, j'en puis plus. Quel quartier infect !»« Oh, le fait est que celui de vos collègues, qui est chargé de l'entretien des rues, ne paraît pas s'être occupé beaucoup de celle-ci, répondit son compagnon. Vous êtes certain que c'est là ? Oh, parfaitement certain, répliqua le premier des noctambules, qui paraissait être de fort mauvaise humeur. En disant ces mots, il s'approcha de la case, frappa deux fois la porte avec le pommeau de son sabre, et, l'écho seul lui répondant, il murmura avec un accent désolé en frappant de nouveau. « Oh, cet animal de Roumi n'est pas chez lui. Manquez plus que ça, capitaine. »« Un peu de patience, mon président. Tenez, voici qu'on vient. » Et à travers les planches, en effet, mal jointes de la porte, on apercevait filtrer un faible rayon de clarté. Presque aussitôt, cette porte s'entr'ouvrit, mais avec prudence et de façon à ne pas livrer trop brusquement passage à ceux qui se présentaient à une heure aussi avancée, et certainement sans être attendus. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » demanda le propriétaire du lieu d'une voix rude. « Diable ! » fit celui qu'on venait d'appeler président. « Voilà une difficulté que nous n'avions pas prévue. Oh, je ne veux pas cependant lui crier mon nom par-dessus les toits. » « Avec cela que Roumi ne vous reconnaîtra pas, » observa son interlocuteur en haussant les épaules, « vous, son pourvoyeur officiel. »« Tiens, oh, c'est vrai, » répondit Ming, que le lecteur a déjà deviné. « Décidément, je deviens stupide. » Perkins, car c'était lui qui accompagnait l'honorable magistrat, exprima par un geste que cette transformation n'avait pas dû être bien difficile, et il suivit son ami, qui n'avait eu besoin que de se nommer pour que la porte de la mystérieuse case s'ouvrit tout à fait. Le maître de la maison fit entrer ses visiteurs dans une petite salle du plus misérable aspect. L'atmosphère épaisse y était imprégnée d'une odeur pénétrante qui disait assez à quelle occupation se livrait celui qu'on dérangeait ainsi. Tout l'ameublement de la pièce consistait en un grand coffre de bois noir, vieux cercueil dans lequel l'habitant de ce bouge enfermait ses hardes, et un grabat près duquel fumait encore une pipe à opium. À la vue de cette preuve de révolte contre les ordonnances relatives à l'usage du dangereux narcotique, le mandarin se souvint tout à coup de ses hautes fonctions et, montrant du doigt la pièce de conviction, il avait sans doute apostrophé sévèrement le fumeur, Lorsque le contrebandier l'arrêta pour lui dire en anglais « Vous n'allez pas, je suppose, dresser procès-verbal contre ce pauvre diable. Pourquoi pas ?»« Mais tout simplement, parce que c'est peut-être moi qui ai vendu cet opium et vous qui l'avez laissé passer. » « C'est vrai, » fit l'ex-douanier en chef de Boca Tigris avec un sourire forcé. « D'ailleurs, nous avons bien d'autres choses à faire. » Alors, se tournant vers Oumi, qui, courbé jusqu'à terre, attendait humblement qu'on voulût bien lui adresser la parole, il lui demanda « C'est toi qui dois exécuter après-demain à Hong Kong les pirates condamnés à mort la semaine dernière ?» « Oui, Seigneur, » répondit cet homme en relevant la tête. Si la malheureuse Saule Brodée avait été là, elle eût tremblé de nouveau en reconnaissant cet individu. C'était le bourreau qui l'avait conduite dans son cachot et si cruellement torturée pour lui faire avouer un crime qu'elle n'avait pas commis. « Tu dois décapiter ou pendre ces gens-là ? On attendait le vice-roi pour prendre ses ordres. » Bon, je les ai reçus aujourd'hui même. La loi ne permet de décapiter, vous le savez, que les rebelles armés contre l'autorité souveraine. Or, les pirates n'ont attaqué et pillé que des Anglais. Ils seront pendus. Que des Anglais ? Oh, voilà une distinction qui n'est guère flatteuse pour le pavillon britannique, murmura Perkins. Mais cette fois, j'en suis tout simplement enchanté. L'exécuteur des hautes œuvres disait la vérité. La décapitation était alors en Chine une loi exceptionnelle, car si les célestes professent le plus profond mépris pour la vie humaine, ils tiennent du moins à mourir sans être mutilés. Par cela même qu'ils conservent avec soin sur le sommet de la tête une queue de cheveux, par laquelle l'ange de la mort doit les enlever, ils redoutent la peine qui les séparait en deux et les ferait rester en partie sur la terre. « Tu connais ces hommes ?» poursuivit Ming, qui ne s'était pas arrêté à la boutade de son ami. « Oui, » répondit Rumi, que toutes ces questions commençaient à troubler un beau coup. « L'un d'eux s'appelle Peyo. C'était le chef de la bande ?»« Oui, c'est bien cela. Oh, un rude gaillard. Il n'y a pas eu moyen de le faire parler. » Le tortionnaire se souvenait avec regret qu'il avait martyrisé le pirate pendant plus d'une heure, sans réussir à lui arracher un seul aveu. « Et où sont les condamnés en ce moment ?»« Ben, toujours à Hong Kong. Le gouverneur a exigé qu'ils y restent jusqu'à l'heure du supplice. Ils y seront conduits sous une escorte de soldats anglais. Eh bien, je viens t'acheter le corps de celui de ces condamnés, qui se nomme Peyo. Le corps de Peyo, répéta le bourreau au comble de la surprise. Oui, le corps de Peyo, enfin son cadavre, enfin. Qu'est-ce que cela te fait? Tu ne me le livreras qu'après l'avoir pendu. Rumi continuait à fixer son interlocuteur sans paraître le comprendre. Impatienté, Ming reprit. « Voyons, combien en veux-tu ? Tiens, ça c'est ? Si c'est trop peu, fais ton prix toi-même. » En disant cela, il avait jeté sur le lit une lourde bourse qui renfermait en belles piastres mexicaines, celles que les Chinois estiment entre toutes, puis certainement que le misérable ne gagnait en une année entière. Cependant, il hésitait et ne répondait pas. « Mais est-ce convenu ?» lui demanda le mandarin avec colère. Ben, « encore faudrait-il me dire dans quel but vous me proposez ce marché ?»« Oh non, cela ne te regarde pas. Tu es bien hardi d'oser m'interroger. »« Mais vous savez mieux que moi, Seigneur, que la loi punit de 100 coups de bambou celui qui a livré le corps d'un mort. » « Ben, ça, mais me prends-tu donc pour un pourvoyeur de chirurgien ? riposta brutalement le digne magistrat, chez qui ces mots, sans coups de bambou, avaient réveillé les plus tristes pensées. Il ne s'agit de rien de semblable. Accepte ou refuse. Si tu acceptes, tu recevras encore le double de cette somme après la livraison du corps de Peyo. Et si tu refuses, je me souviendrai demain que je t'ai surpris fumant de l'opium. Oh, c'est bien, j'accepte, s'empressa de répondre le sinistre gredin, épouvanté. Alors, écoute-moi de façon à n'oublier aucune de mes recommandations. D'abord, tu te réserveras le soin de pendre toi-même, Peyo. Mais le dernier, là, tout doucement, sans le brutaliser. Et lorsque tu l'auras pendu, tu le laisseras tranquillement au bout de sa corde. Bien. Une demi-heure après, tu viendras, ainsi que d'habitude, descendre les cadavres. Il fera nuit. Tu seras par conséquent seul avec tes hommes. Tu mettras les corps sur ta charrette pour les porter à la fosse commune, mais tu oublieras celui de Peyo au pied de son gibet. Je t'en demande pas davantage. Bien, ce sera fait exactement, je vous le promets. Le soir même, tu seras payé. Le hideux fonctionnaire s'inclina jusqu'à terre pour exprimer sa reconnaissance, et prenant la lampe fumeuse qui éclairait son triste logis, il se prépara à reconduire ses hôtes. « Je n'ai rien oublié, n'est-ce pas ?» demanda Ming à Perkins, qui était resté le témoin muet de cette scène. « Non, non, rien, » fit le capitaine. « L'intérêt et la peur nous répondent de cet homme. » Allez, partons vite, sans quoi je ne pourrais plus rentrer à la forteresse. Les grilles en seraient fermées. Il précéda le président et franchit le premier le seuil de la maison, dont la porte retomba aussitôt derrière eux. Rumi avait hâte, sans doute, d'aller compter les arrhes qu'il avait reçus sur le prix du cadavre de Beyo, et aussi de reprendre sa pipe d'opium, si brusquement abandonnée. 10 minutes plus tard, Perkins et Ming rejoignirent le pont où, après avoir poussé un soupir de satisfaction, le mandarin arrêta son ami pour lui dire « Bon, bon, j'ai fait tout ce que vous vouliez, quoique je ne comprenne vraiment rien à votre projet. J'espère que maintenant, vous allez vous aussi donner à votre promesse. »« Ma promesse, mais laquelle ?» demanda l'anglais d'un air étonné. Et en entraînant doucement son compagnon du côté de la ville. Mais comment laquelle ? S'exclama le malheureux juge avec un désespoir des plus comiques. Mais celle de m'aider à découvrir le véritable assassin de Ling, puisqu'il paraît que ce n'est pas Ité. Moi, j'ai beau chercher, je vous avoue que je ne trouve rien. Ah oui, c'est vrai, pardon, je vous avais un peu oublié. « Bien, où en êtes-vous ? » ?»« Je suis à peu près aussi avancé que le premier jour. J'ai mis inutilement en chasse les plus fins agents de mon collègue Fohop. On dirait que ces animaux-là se font une joie de me voir recevoir. Ah, ils ne découvrent rien du tout. J'ai visité moi-même toutes les prisons, interrogé 100 détenus, fait donner la bastonnade à une vingtaine, rien. » « Avez-vous fait une enquête à Funsi, chez les voisins de Madame Liu ?»« Oui, mais malheureusement, sa servante a été enlevée, et les gens que j'ai questionnés ne m'ont pas appris grand-chose. Oh, si vous venez pas à mon secours, je suis perdu. »« Oh, pas encore. Voyons, résumons-nous. D'abord, n'a-t-on aucun soupçon sur les ravisseurs de Rose ? N'a-t-on découvert aucun indice ? Non, ah oui, si, si, sur le bord de l'eau, à l'endroit où il manquait une embarcation que ces bandits ont dû voler pour se sauver, on a trouvé un chapeau de matelot. Chinois ou européen ? Bon, chinois, comme ceux que portent les pêcheurs, ou vos amis les pirates des ladrones. Eh, mais c'est une piste, cela. Car si ce sont vraiment des pirates qui ont enlevé la servante de Madame Liu, on peut presque supposer que c'est un des leurs qui a assassiné Ling Talang. Oh, peut-être, en effet. Il est bien évident que cet infortuné a été tué par un jaloux, un amoureux éconduit de la jolie Saule Brodée. Mais Madame Liu ne recevait personne, excepté son neveu, elle l'affirme. L'amoureux dont je parle a pu voir sa fille à la pagode, à la promenade, à sa fenêtre. Saule Brodée ne sortait pour ainsi dire jamais, et la maison qui est en face de la sienne est inhabitée depuis plus de 2 mois. Et qui l'occupait? Un boucher, qui était à ce qu'il paraît le plus grotesque personnage qu'il fût possible de voir. Il a disparu tout à coup, un beau matin. Depuis ce jour-là, on n'en a plus entendu parler. Et il s'appelait Chu. Les gamins l'avaient surnommé l'araignée rouge. Ils ont peint sur les volets de sa boutique une énorme mygale en souvenir de lui. Et est-ce que la servante de Madame Liu se fournissait chez ce boucher? Bon, c'est probable, comme toutes les autres domestiques du quartier. Et ce Chou était-il grand ou petit, fort ou faible? Bon, c'est pas de rien. Pourquoi, diable, me serais-je occupé de cela? Pourquoi, mon pauvre président, mais que vous êtes un triste policier! Vous savez que les traces des pas relevées dans le jardin du Ling sont celles d'un homme lourd et de haute taille, que l'empreinte sanglante découverte sur un des coussins du lit de la chambre nuptiale est celle d'une grande main, que l'assassin doit être un individu robuste puisqu'il a très probablement étouffé sa victime et qu'il l'a sûrement transporté de l'allée jusqu'au massif où son cadavre a été trouvé. Et vous ne vous inquiétez pas de savoir si un boucher qui demeurait en face de Saule Brodée et dont on ne connaît pas le sort, était petit ou grand, fort ou faible. Et puisque au moment du crime, il y avait déjà longtemps qu'il était parti, pensez-vous? Je ne pense rien du tout. Mais je me dis qu'il y a là, d'un côté, un assassin qu'on ne retrouve pas et de l'autre, un voisin qui a filé et que cela mérite réflexion. Ben, tiens, tiens, c'est vrai. Et quel homme était-ce que ce Chou? Un être bizarre, tantôt gai comme un nid d'oiseau et galant avec ses clientes, tantôt sombre et farouche. Eh bien, mon brave Ming, quelque chose me dit que cet envolé de la rue des Batteurs d'Or n'est pas aussi étranger que vous le croyez à la mort du mari de Mademoiselle Siu Siu. Que dites-vous là? Vous vous rappelez que Ling Talang a été frappé avec une arme épaisse et tranchante des deux côtés? Est-ce que ça ne pourrait pas être un couteau de boucher? De plus, Chu a quitté Funxi au moment où le bruit du mariage de sa voisine a dû devenir public. Qui sait s'il s'en est allé bien loin et s'il ne s'est pas tout simplement caché dans les environs pour attendre le moment propice? Aurais jamais pensé à tout cela. Eh bien, moi, j'en conclus que, si nous pouvons avoir la preuve que ce sont des pêcheurs qui ont enlevé Rose, nous serions sur la piste du meurtrier. Il se peut donc que, tout à l'heure, en achetant le cadavre de Peiyo, ce soit à vous-même, encore plus qu'à nous, que vous ayez rendu service. Alors, pour le coup, je n'y suis plus du tout. Si je ne me suis pas trompé, vous comprendrez bientôt, mais pour cela, il faudrait que vous vinssiez à Hong Kong après-demain. Le jour de l'exécution des pirates? Sans doute, oui, votre présence dans la colonie semblera toute naturelle. Acceptez mon invitation à dîner. Peut-être d'ici là aurais-je appris quelque chose d'intéressant pour vous. En attendant, allez, bon courage et bonne nuit. Tout en causant, les deux amis étaient retournés à la factorerie anglaise, où les porteurs de Ming l'attendaient en dehors de la grille. « Alors, bon, c'est entendu, après-demain matin, » soupira le mandarin, en réveillant ses serviteurs à coups de pied. « Mais je vous assure que je ne saisis pas un traître mot de votre projet. » Et il s'étendit lourdement dans son palanquin, en fataliste, résigné à tout. Perkins, sans s'occuper davantage du bonhomme, n'avait fait qu'un bond de l'entrée de la factory à l'appartement qu'il habitait avec Sir Arthur Murray lorsqu'ils étaient à Canton, c'est-à-dire tous les 3 mois, durant une vingtaine de jours. « Eh bien, » lui demanda son compatriote, qui n'avait pas voulu se coucher avant son retour. « C'est fait, » répondit joyeusement le capitaine. « Ming a été fort digne et presque intelligent. » « Alors on nous livrera le corps de Peyo. »« Mais aussitôt qu'il sera décroché du gibet, c'est-à-dire une demi-heure après sa pendaison. »« Bon, c'est parfait. J'arrive de Hong Kong où j'ai vu mon vieux camarade le docteur Clifton. »« Il fera tout ce que nous voudrons, mais c'est un habile praticien. »« Vous le verrez à l'œuvre. »« Et Peyo, qu'en pensez-vous ? Il vous coûte bien cher ?» Pour nous, très bon marché, 40 piastres avant la corde et 100 après. Mais c'est pour rien. D'autant plus que c'est un grand gaillard de 5 pieds 8 pouces qui s'en ira au supplice en bénissant son souverain, le fils du ciel, de ne pas lui faire couper le cou. Alors, tout est pour le mieux. Nous pouvons dire comme Titus que nous n'avons pas perdu notre journée. Et sur cette réflexion philosophique peu flatteuse, il nous semble, pour la mémoire de l'empereur romain, car nous n'avons pas souvenir que le fils aîné de Vespasien ait jamais acheté de pendu, Perkins souhaita le bonsoir à Sir Arthur et se retira dans sa chambre à coucher, où il s'endormit bientôt, sans penser plus longtemps au pauvre Ming, qui cependant, on le sait, n'avait d'espoir qu'en son ami le contrebandier. Chapitre 2 Les deux condamnés à mort. Plus désespérée que jamais en sortant de chez le vice-roi, Madame Liu s'était hâtée de retourner auprès de sa fille, qu'elle n'avait quittée qu'une seule fois pour aller se rendre compte du vol commis à Funsin par les misérables qui avaient enlevé Rose. Et comme elle ne se doutait guère du rôle joué par celle-ci dans le drame dont son enfant était la victime, elle s'était certainement plus apitoyée sur le sort de sa servante qu'elle n'avait déploré le pillage de sa maison. Qu'était ce malheur auprès de celui qui la menaçait? En effet, malgré l'intérêt que le prince Kong paraissait lui porter et les promesses du capitaine Perkins, elle était à peu près sans espérance. Chaque jour ne redoutait-elle pas sa douleur en la rapprochant du terme fatal? Elle s'efforçait cependant de rendre à sa fille le courage qui lui manquait à elle-même, et elle étouffait ses sanglots pour sourire à la malheureuse dont les souffrances morales dépassaient encore les douleurs physiques. On avait, il est vrai, transporté Saul Brodée dans une petite chambre convenable, située dans la partie la moins horrible de la prison, elle avait même obtenu d'y être soignée par cette geôlière muette qui lui témoignait tant de compassion. Mais si les plaies de ses petites mains étaient cicatrisées, s'il n'y restait que les traces de l'odieux étau de fer dans lequel on les avait enfermées, son cœur restait brisé. Et Madame Liu s'épuisait vainement en efforts de tendresse pour la calmer. Loin de revenir à la santé, la douce créature s'étiolait rapidement. Ses joues se creusaient et elle ne cessait de pleurer. Durant des jours, des entières, on ne pouvait lui arracher une parole. Elle semblait dévorée par quelque douleur secrète dont l'aveu s'arrêtait sur ses lèvres décolorées. 20 fois, elle s'était jetée dans les bras de sa mère en sanglotant. Et celle-ci avait pensé qu'elle allait parler, mais elle était aussitôt retombée dans son mutisme et sa prostration. Madame Liu ne savait plus que penser, et elle craignait que les secousses qui avaient accablé son enfant depuis son mariage n'eussent affaibli sa raison. Quand, un matin, en la voyant encore plus triste que jamais, elle la prit sur ses genoux, comme lorsqu'elle était toute petite, et lui dit en la couvrant de baisers: Voyons, ma chérie, n'as-tu donc plus pour moi ton affection d'autrefois, que tu gardes le silence quand je t'interroge? Ta condamnation ne serait plus te donner aucune crainte. L'assassin de ton mari sera découvert. Bientôt nous retournerons dans notre petite maison de Founsi, où nous retrouverons le bonheur et le calme. Nous ne conserverons de ces tristes jours que le souvenir que laisse un mauvais songe. Le ciel lui-même te récompensera des épreuves qu'il t'a infligées. Réponds-moi, je t'en prie. Et elle réchauffait de son haleine le front glacé que la prisonnière laissait tomber sur son sein. Ité est-il donc mort que tu ne me parles jamais de lui? Murmura enfin Liu Xiu, sans lever les yeux. Non, tout au contraire, répondit vivement sa mère. Ton cousin, oh, quoique bien faible encore, va beaucoup mieux. Vraiment? Fit-elle avec un sourire ineffable. Oh oui, je te le jure, je m'informe de lui tous les jours. Ce matin, j'en ai eu des nouvelles qui sont presque bonnes. On craignait pour sa raison à cause de. Oh, je sais, interrompit avec un frisson l'infortunée, qui ne pouvait oublier l'horrible supplice qu'avait subi le jeune prêtre. Mais il a recouvré toute son intelligence et il est courageux, lui. Ce dernier reproche était fait avec un accent de tendresse infinie. Je voudrais bien le voir, demanda Saul Bronnet d'une voix si basse que Madame Liu la devina plutôt qu'elle ne l'entendit. Le voir? Répéta-t-elle. Oui, ne suis-je pas cause de ses souffrances? N'est-ce pas moi qui l'ai fait arrêter, condamner? N'est-ce pas pour moi et par moi qu'il mourra comme un assassin? Oh, si je pouvais lui demander pardon! À ces étranges paroles que sa fille avait prononcées avec une exaltation croissante, la pauvre femme comprit ce qui se passait dans son cœur et lui dit doucement: Tu l'aimes donc? Je ne sais. Seulement, je voudrais qu'il me pardonnât avant que nous mourions en tous les deux. Mais vous ne mourrez ni l'un ni l'autre, j'en suis certaine, je te le promets. Et tu verras Ité aujourd'hui. Oh, ils ne me refuseront pas cela. Elle porta Saul Brodé sur son lit, lui donna un dernier baiser, et la recommanda aux soins de la muette et sortit. Moins d'un quart d'heure après, Madame Liu était de retour, et la condamnée, dont les regards anxieux n'avaient pas quitté la porte de sa chambre, comprit aussitôt à la physionomie de sa mère qu'elle avait réussi dans sa démarche. Le gouverneur de la prison, en effet, lui avait immédiatement accordé l'autorisation désirée. Craignant d'être lui-même, ainsi que l'était le président Ming, l'objet de la colère du vice-roi, en raison de la sévérité brutale avec laquelle il avait traité sa détenue dès le premier jour de son arrivée, il s'était empressé de saisir l'occasion de se montrer humain et généreux. Cependant, pour mettre sa responsabilité tout à fait à l'abri, un de ses officiers accompagnerait sa pensionnaire qui était libre d'aller visiter son cousin le jour même. En recevant cette bonne nouvelle, Saul Bronnet sentit son cœur déborder de joie, et malgré sa faiblesse, elle fut prête en un instant. Mais hélas, Ce n'était plus la fraîche et rieuse enfant à qui le diseur de bonne aventure de la rue des Batteurs d'Or avait prédit richesse et bonheur. En un mois, elle avait vieilli de 10 ans. C'est à peine si elle put monter dans la chaise à porteurs qu'on avait envoyé chercher, car il fallait parcourir un assez long chemin pour se rendre à l'hôpital où il était détenu. Cet établissement est le plus remarquable de Canton par son installation et les superbes jardins qui l'entourent, est situé dans la ville tartare, à peu distance du palais du prince Kong. Mais Saul Brodé ne fut distraite pendant la route ni par le bruit de la foule ni par le spectacle des cortèges de prêtres et de soldats qu'elle rencontra sur son passage. Son esprit et son cœur étaient tout à celui qu'elle allait voir. Lorsqu'elle arriva à l'hospice, Madame Liu n'eut qu'à montrer l'autorisation qu'on lui avait donnée pour que les portes s'ouvrissent devant elle. On la conduisit avec sa fille auprès du lit du provité, et ce fut alors, dans ce milieu déjà si lugubre par lui-même, une scène d'une tristesse déchirante. Dans une petite pièce isolée et surveillée nuit et jour par 2 soldats de police, le jeune prêtre, pâle et défiguré, était étendu sur un misérable grabat où il ne pouvait, pour ainsi dire, faire un seul mouvement. Ses blessures n'étaient pas cicatrisées. Ses souffrances étaient toujours horribles. On distinguait encore sur ses tempes les plaies que le terrible cercle de fer y avait faite. Son front paraissait déprimé. Ses yeux, que la douleur avait démesurément ouverts, semblaient s'être agrandis. Sa bouche gardait le rictus que lui avait imprimé la torture. Quant à sa raison, elle était revenue tout entière, car lorsque Ming en personne, si directement intéressé à recueillir sur l'assassinat de Ling de nouveaux renseignements, avait voulu l'interroger, il avait répondu « Oh, si vous m'avez condamné à mort, vous n'avez plus le droit de me torturer, alors laissez-moi mourir. » Néanmoins, en voyant entrer tout ce monde, lui que les médecins seuls visitaient, il ne comprit pas d'abord ce que cela voulait dire. Les regards fixés sur ce groupe, dont 2 personnes lui rappelaient les jours heureux disparus, il crut d'abord qu'il était le jouet d'un songe et remercia Bouddha de lui envoyer au milieu de son isolement. Mais la lumière se fit dans son esprit. Alors, en murmurant un nom aimé, il étendit les bras. Saul Brodé était déjà agenouillé près de lui, et ses lèvres sur une de ses mains amaigries, elle murmurait « C'est moi qui t'ai perdu, Ité, me pardonneras-tu jamais ?» Le malade ne répondit que par un sourire, et des larmes de joie s'échappèrent de ses yeux. Il comprenait qu'il était aimé. Ses souffrances n'existaient plus. Il bénissait jusqu'à ses douleurs. Pendant un instant, ils gardèrent le silence. Madame Liu, qui assistait à cette chaste communion de 2 âmes également pures, ne songeait pas à les troubler. Ité, le premier, prit la parole. « Vois-tu, dit-il à sa cousine, avec l'accent familier qu'il employait lorsqu'ils étaient enfants, tout cela devait être, et je n'ai rien à te pardonner. Il était écrit là-haut que nous pouvons vivre ensemble, nous serions unis dans la mort. Ne nous révoltons pas contre le destin. Tu es là, près de moi. Je sens ta main qui presse la mienne. Je ne souffre plus. Et maintenant, je ne demande qu'une seule chose, c'est que les forces me reviennent afin que je puisse marcher au supplice comme doit le faire un homme dont la conscience est sans reproche. Oh, je te donnerai du courage par mon exemple. Pourquoi n'ai-je pas deux existences? Je les offrirai en échange de la tienne. Mais nous ne mourrons pas, Ité. Tu ne sais donc pas ce qui s'est passé? Elle lui apprit rapidement tout ce qu'elle tenait de sa mère. Tu rêves, lui répondit le condamné, lorsqu'elle eut terminé. Ne conserve pas de telles espérances. Moi, je n'en veux pas, parce que la certitude où je suis de mourir bientôt me donne le droit de te dire « je t'aime ». La fille de Madame Liu sentit un frisson qui parcourait tout son être et baissa la tête. « Oui, je t'aime, » répéta le jeune homme, « et ma joie sera de te le redire à l'heure suprême, de te le crier encore sous le sabre du bourreau. » Et, faisant un effort surhumain, Ité se pencha vers sa cousine pour déposer sur son front un long baiser. Puis, brisé par toutes ses émotions, aussi pâle que s'il allait expirer, il ferma les yeux et retomba sur son lit, en murmurant « Je fais plus que te pardonner. Je te remercie et je t'adore. » Saul Brownet pensa qu'il venait de rendre le dernier soupir. « Ité !» s'écria-t-elle en se jetant sur lui. « Bon, soyez sans crainte, madame, » lui dit en la relevant avec douceur le médecin de l'hôpital, qui depuis quelques instants déjà assistait à cette scène touchante. « Votre ami est sujet à ses syncopes. C'est assez de fatigue pour aujourd'hui, retirez-vous. » De la part du docteur, c'était là un ordre. La veuve de Ligue le comprit. Elle s'inclina sur le visage décomposé de son parent, lui donna un dernier baiser en lui disant « à bientôt », comme s'il pouvait l'entendre, et faisant signe à sa mère, elle sortit la première de cette chambre où elle laissait son cœur tout entier. Quelques minutes plus tard, le petit cortège reprenait la route de la prison. Les deux malheureux étaient remontés dans leurs chaises à porteurs et toujours escortés de l'officier de police commis à leur garde, elles atteignirent bientôt la porte de Tainan, voûte de plus de 40 pieds de longueur, percée dans le rempart qui sépare les deux villes tartare et chinoise, et gardée à chacune de ses extrémités par des factionnaires armés. Au moment où les porteurs de Madame Liu et de sa fille venaient de s'engager sous cette voûte, dont certaines parties restent toujours dans une demi-obscurité malgré les lanternes placées çà et là, la foule était si considérable qu'ils durent s'arrêter pour attendre que le passage fût plus facile. Ils étaient là depuis quelques moments, les chaises rangées le long de la muraille, lorsque Saul Brownet sentit que, du côté opposé à celui où elle regardait, une main se posait sur son épaule. Elle se retourna vivement. Un homme, dont elle ne pouvait distinguer les traits, avait passé le haut de son corps à travers la portière et l'attirait à lui. Elle voulut jeter un cri, mais avant que cela lui eût été possible, l'inconnu l'avait saisi, embrassé et repoussé en lui disant « Tu sais maintenant comment se venge Chou. Tu ne reverras plus l'araignée rouge qu'une seule fois. Ce sera au pied de ton gibet. Oh, je voudrais y monter avec toi pour sucer la dernière goutte de ton sang. » Au secours, bégaya Liu Xiu en se jetant à terre, folle de dégoût et d'épouvante. Elle avait reconnu le boucher, bien que cependant elle n'eût jamais fait grande attention à lui. Et il lui semblait tout à coup que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait sa voix, quoiqu'elle ne se rappelât pas lui avoir jamais parlé. Où, quand, dans quelles circonstances, cette voix avait-elle déjà frappé son oreille? Elle ne pouvait s'en souvenir, mais elle frissonnait d'horreur. Madame Liu, la première, avait répondu à l'appel de sa fille. Elle la soutenait dans ses bras. Ni l'officier de police, ni les porteurs ne comprenaient rien à ce qui se passait. Là, tout près de moi, je viens de le voir, répétait la jeune femme, les yeux hagards et en étendant la main vers l'endroit le plus sombre de la voûte. Mais que t'est-il donc arrivé? De qui veux-tu parler? Lui demanda sa mère éperdue. Mais lui, l'assassin! L'assassin, mais qui cela? Réponds, je t'en prie. Oh, je le reconnais maintenant. C'est Chou le boucher, notre voisin à Funcine, tu sais bien. Chou, l'araignée rouge? Oui, l'araignée rouge. Oh, je sens encore là sa morsure. Voyons, calme-toi. Ce n'est qu'un rêve, une hallucination. Oh non, non, je l'ai bien vu et je me souviens. C'est la même voix que j'ai entendue qu'une seule fois dans ma chambre à la Villa Ling pendant la nuit de mes noces. Oh, je m'en souviendrai toujours. J'ai peur, j'ai peur. Glacée d'effroi, elle fermait les yeux en se pressant contre Madame Liu. Celle-ci se fit aider par l'un des porteurs, et après avoir replacé sa fille dans sa chaise, elle pria celui qui les escortait d'ordonner le départ. Un quart d'heure après, de retour à la prison, Saul Brodé, qui avait retrouvé un peu de son sang-froid, raconta de nouveau l'horrible apparition de la porte Tainan. Sans lui demander d'autres détails, sa mère la recommanda à la muette et se vit aussitôt conduire chez le président de la cour criminelle. Depuis son entrevue avec le vice-roi, Ming osait à peine s'éloigner pour aller à sa villa, car il avait mis en campagne tous ses agents et voulait qu'ils pussent toujours le trouver sans retard, dans le cas heureux où ils auraient quelque chose d'intéressant à lui communiquer. Hélas, oh, c'était précisément le contraire qui avait eu lieu jusque-là. Le malheureux mandarin en perdait le boire et le manger, ce qui était certainement chez lui la preuve du plus profond désespoir. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit, et le serviteur qui venait à ses cris le surprenait, courant dans sa chambre, en courbant l'échine, comme pour échapper aux coups de bambou. Il le croyait, du moins, dans son cauchemar. Il lui semblait même que l'exécuteur les lui administrait avec un certain plaisir. Le pauvre juge menait une existence atroce, se raccrochant au moindre indice. Aussi s'empressa-t-il de donner l'ordre d'introduire Madame Liu lorsqu'il sut qu'elle le désirait lui parler. Il s'efforça néanmoins de reprendre tout son calme et toute sa dignité pour la recevoir. Mais la mère de Saul Brodé avait bien autre chose à faire que de songer au cérémonial accoutumé. À peine en présence de Ming, et sans s'inquiéter du secrétaire qui était là, elle alla droit au but et lui dit: Vous avez presque autant d'intérêt que moi à retrouver l'assassin de Ling, n'est-il pas vrai? Oh, je le crois bien, répondit vivement le magistrat. Si j'ai autant d'intérêt que vous à retrouver l'assassin de Ling, mais j'en ai davantage, bien davantage. Ah non, il s'agit de la vie de mon enfant, fit observer doucement Madame Liu. Mais pour moi, de mon honneur de juge, riposta le fonctionnaire avec plus d'à-propos qu'il ne s'en supposait capable lui-même. Eh bien, cet assassin, je le connais. Vous le connaissez? Ma fille l'a vu. Où cela? Mais sous la voûte de la porte Tainan, en revenant de l'hôpital où se meurt le pauvre Ité. Sous la voûte de la Portainan, et vous ne l'avez pas fait arrêter? Oh non, grâce à l'obscurité, il a disparu facilement. Madame Liu raconta alors ce que sa fille lui avait dit de l'apparition du meurtrier. Et quel est cet homme, ce misérable? C'est un de mes anciens voisins à Funxi, un boucher du nom de Chu. Chu, attendez donc. Ah, oh, celui que les gamins appelaient l'araignée rouge. Oui, lui-même. Mais alors Perkins est un magicien, un sorcier. Moi, je ne suis qu'un imbécile. Inutile de dire que Ming avait prononcé cette dernière phrase en aparté. Non, je ne vous comprends pas. Oh, moi, je me comprends. Cet homme a quitté Funxin au moment des fiançailles de votre fille. Oui, à peu près à cette époque. Il y a certainement plus de 3 mois que sa boutique est fermée. Il aimait Mademoiselle Liu Xiu et a tué son mari par jalousie. Oui, aujourd'hui, j'en suis certaine. Mais où le trouvez maintenant? Puisqu'il était à Canton il y a une demi-heure, il ne saurait être loin. Oh tiens, c'est vrai, décidément je perds la tête. Vous avez entendu, Ting Tong? Ces mots s'adressaient au secrétaire qui assistait à cet entretien. J'ai entendu, Seigneur, répondit humblement le scribe. Que faut-il faire? Mais courir chercher Fohop. Ting Tong fit un pas vers la porte de sortie. « Oh putain, non, j'y vais moi-même, » reprit le président, en frappant un tour de bras sur le gond qui lui servait à appeler ses gens. Une demi-douzaine de serviteurs se présentèrent aussitôt. « Vite, mon palanquin et mes plus solides porteurs, » commanda Ming. Et il se mit à marcher en murmurant. « Tchou, le boucher, l'araignée rouge oh !» Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. 5 minutes s'étaient à peine écoulées lorsqu'on vint le prévenir que ces hommes étaient à ses ordres. « Vous avez votre chaise, madame ?» demanda-t-il à sa visiteuse. « Oui, » répondit madame Liu. « Alors, suivez-moi, nous allons chez le préfet de police. Il n'y a pas un instant à perdre. » Et l'énorme Ming, à qui l'espoir d'échapper au coup de bâton dont il était menacé rendait toute l'agilité de sa jeunesse, bondit jusqu'à son palanquin. Ses porteurs plièrent sous le fait, mais n'en partirent pas moins d'un pas accéléré. Ceux de madame Liu y mirent de l'amour-propre. Aussi, quoiqu'ils fussent 2 seulement, et eussent fait une course assez longue, arrivèrent-ils en même temps que le pesant mandarin. Celui-ci donna galamment la main à la pauvre femme et l'entraîna dans le cabinet de Fohop. En peu de mots, Ming le mit au courant de ce qui s'était passé sous la voûte de la porte Tainan. « Oh, si cet homme n'a pas quitté la ville avant 1 heure, il n'en sortira pas, je vous le promets, » dit le chef de la police. « Mais comment ferez-vous ? » Sous le prétexte que les éclaireurs de l'armée des rebelles m'ont été signalés dans les environs, je vais fermer toutes les portes de Canton. Très bien. Et envoyer l'ordre au commandant du port de tendre les chaînes pour qu'aucune embarcation ne puisse sortir des bassins et de la rade. Mais vous êtes un homme admirable. Puis mes 5 principaux agents, bien accompagnés, fouilleront cette nuit tous les repères de la ville et des faubourgs. Dans 1 demi-heure, les Tipao recevront la consigne de ne laisser circuler aucun individu suspect. Les Tipao sont en Chine les gardiens de nuit. Chaque rue a le sien, toujours le même, de sorte que ces hommes connaissent de nom et de vue tous les habitants du quartier qui sont chargés de surveiller. Il n'y a qu'un malheur dans cette organisation ingénieuse qui devrait être pour les malfaiteurs un obstacle insurmontable. C'est que ces surveillants se promènent en frappant sur un cylindre de bois qui produit un son pareil à celui d'une crécelle et qu'ils portent à la ceinture une lanterne allumée. Il en résulte que les voleurs, les entendant et les voyant venir de loin, peuvent tout naturellement se livrer sans nul danger à l'exercice de leur profession. Seulement, continua Fohab, il me faudrait le signalement de l'assassin. Tiens, c'est vrai, moi qui ne l'ai même pas demandé, répondit Ming avec naïveté. Madame va vous le donner. La mère de Saul Brodé s'empressa de faire de Tchou un portrait si détaillé que le brave magistrat ne put s'empêcher de s'écrier: ben, je le reconnaîtrai entre mille, ce monstre! Il fut interrompu par l'arrivée des agents qu'avait fait appeler le préfet. Celui-ci leur expliqua ce dont il s'agissait, et après leur avoir donné les plus minutieuses instructions, il allait les renvoyer lorsque le magistrat, qui, en présence de ses inférieurs, avait repris toute sa morgue, leur dit avec rudesse: vous savez qu'il nous faut ce coupable cette nuit même, ou sinon demain matin, 20 coups de bambou à chacun de vous. Les pauvres diables s'inclinèrent jusqu'à terre sans oser formuler une plainte et sortirent. Vous êtes sévère, mon cher président, dit Fohop après le départ de ses hommes. 20 coups de bambou, s'ils ne réussissent pas, comme vous y allez. Ah, je suis bien menacé d'en recevoir 5 fois plus. Ah, c'est vrai, et comme ils sont 5, ça fait juste votre compte. Votre plaisanterie est cruelle. Heureusement que ce n'est qu'une plaisanterie, que vous échapperez à cette humiliation. Oh, si ce n'était qu'une humiliation! Mais j'y pense. Si nous faisions mieux encore que nous en rapporter à nos gens, si nous cherchions nous-mêmes. Vous dites? Bien, si cette nuit nous accompagnions mes agents. Y pensez-vous sérieusement? Mais très sérieusement. Le portrait de ce Tchou me paraît gravé dans votre esprit. Oh oui, je le crois bien. Alors retournez chez vous. Mettez un costume de simple bourgeois, comme celui que vous endossez lorsque vous vous échappez la nuit de l'île de Honan pour courir les bateaux de fleurs. Les bateaux de fleurs, moi, vous pouvez. Mais mes fonctions me commandent de tout savoir. Allons, soit, j'irai où vous voudrez. Vers 10 heures, je passerai vous prendre. C'est entendu, je vous attendrai. Ces mots étaient à peine prononcés que Ming les regrettait déjà, car il l'engageait dans une excursion dont son courage se souciait fort peu. Mais il était trop tard pour reculer. Il le comprit, et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il serra la main de son collègue. Puis, courant à son palanquin, il apostropha ses porteurs avec un ton de commandement militaire auquel il n'était pas accoutumé. Le pacifique jurisconsulte se voyait déjà transformé en foudre de guerre.